Comme je vous l'ai annoncé, Isabelle Bonnet, c'est ça? Bonjour à vous.
Bonjour.
Et enlevez votre masque parce que sinon on va rien comprendre à ce que vous dites. Et notre ami François Roche, qu'on reçoit souvent à l'antenne de Galère au titre de Lutte ouvrière.
Bonjour.
Vous êtes donc une liste, celle de Lutte ouvrière. Donc encore une fois dans une élection où vous marquez votre différence, hein, mais vous marquez aussi votre différence parce que, comme souvent, vous avez peu de chances de récupérer votre mise. C'est-à-dire que les sous, les travailleurs se sont cotisés pour que vous puissiez vous présenter. Parce qu'il faut, hein, payer les bulletins de vote, il faut payer le fonctionnement général de l'élection, c'est ça? Isabelle répond.
Oui, bah, tout à fait. Dans cette élection, comme dans bien d'autres, il faut faire plus de 5% pour être remboursé de son matériel électoral. Donc, ça nous est arrivé, on va dire, il y a quelques années avec Arlette Laguiller,
Une
mais ça ne
fois.
nous est pas arrivé dans ces élections récentes où nous savons que nous représentons
Deux
un
fois.
courant, oui, communiste révolutionnaire, mais minoritaire. Et donc, c'est les cotisations de nos camarades, de nos sympathisants, la souscription aussi de tous ceux qui tiennent à ce que leurs idées soient représentées dans ces élections pour pouvoir voter pour nous, qui nous permet de financer notre matériel de campagne électorale.
Bel effort. Bel effort. Et donc les idées, hein, révolutionnaires, rappelez-les nous, hein, parce que bon, je vais pas faire le boulot à votre place non plus. Alors c'est qui s'y colle? C'est François Roche. Je sais que tu viens toujours à galère avec Joie. Même quand je te passe les pires horreurs, la macnamara et des choses comme ça, tu le prends toujours bien.
Je crois que l'essentiel dans la campagne sera, comme le dit le nom de notre liste, faire entendre le camp des travailleurs, faire entendre la colère du monde du travail, de montrer que la pandémie a sans doute aggravé la crise du capitalisme, mais qu'elle existait avant, et que ce sont les classes populaires qui la payent, que ce soit par le chômage, que ce soit par les bas salaires, ou par même une augmentation croissante de la misère. Et c'est cela qu'on dénonce en disant que ce ne sont pas des élections qui pourront permettre d'inverser la tendance, mais les élections pourront nous permettre de nous compter, de défendre nos idées, pour préparer des luttes qui seront nécessaires pour inverser la tendance.
D'accord, lutte armée avec force, lutte ouvrière alors.
Non, c'est-à-dire que ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait des luttes sociales massives qui partent
Ah,
des
d'accord.
entreprises. Et alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font grève. Je pense à une entreprise de l'aéronautique, PPG, qui fabriquait des ingrédients pour l'aéronautique, qui était menacée de fermeture, alors que l'entreprise a fait plus de 2 milliards 200 millions de bénéfices l'an dernier. Ben, les travailleurs se sont mis en grève. Ça a menacé l'aéronautique d'une pénurie de certains produits. Et l'entreprise a été évacuée par 17 quarts de CRS, ce qui fait qu'il y avait sans doute plus de CRS que d'ouvriers qui occupaient le site, d'ailleurs des fois avec leurs femmes et leurs enfants. C'était à Bezons dans le Val d'Oise. Et ça montre à la fois un patron voyou qui licencie, qui jette à la rue 220 personnes alors qu'ils ont fait plus de 2 milliards de bénéfices l'année dernière, et le gouvernement qui envoie un geste fort de soutien inconditionnel au patronat en disant: vous pouvez jeter les gens à la rue, nous on se charge d'évacuer les usines. Et ce fait divers, enfin ce fait social, pour nous, il est assez significatif de la société telle qu'elle est, telle que nous on voudrait la changer. Parce que dans cette élection, on n'aspire pas non plus à gérer la région mieux que les autres. Pour nous, c'est l'occasion de défendre des idées, mais de ne pas cacher qu'on veut renverser le capitalisme, parce qu'il n'y aura pas de manière judicieuse, équitable, de gérer le capitalisme.
Certains y ont cru, hein, le monde d'après, Isabelle
Oui, et
Bonnet.
puis comme disait François, bien sûr, c'est la lutte ouvrière, mobilisation sociale importante, mais cette lutte ouvrière, elle trouve souvent en face d'elle, effectivement, les tenants de l'État et les tenants du gouvernement. Alors, c'est la police dans le cas qu'a décrit François. Moi, je voudrais rendre hommage en ce moment à tous les personnels municipaux qui sont en grève dans plein de villes de France et en particulier en région parisienne. Parce que, alors qu'on les a traités de héros, les égoutiers, les employés qui travaillent à la voirie, qui ont ramassé les ordures pendant la pandémie, aujourd'hui, on s'attaque à leurs jours de congé. On veut les faire travailler plus. Voilà le remerciement que le gouvernement et que les collectivités locales leur donnent. Et pour ça, on n'a pas envoyé la police, mais quand ils manifestaient, on leur a envoyé quand même des policiers pour leur mettre des contraventions de 135 €, ce que je trouve particulièrement dégueulasse. Donc non seulement ils ont raison de se battre et de se défendre, mais en effet, on peut trouver en face de soi soit des cars de police pour briser la grève, soit effectivement d'autres pour faire respecter l'ordre social. Il ne faut surtout pas contester, il ne faut surtout pas s'indigner du sort qui est fait aux travailleurs dans cette société. Oui, nous sommes vraiment farouchement du côté de tous ceux qui se battent aujourd'hui et qui contestent cet ordre social injuste.
Est-ce qu'il y a un monde d'après ? Après la pandémie, les gens ont réfléchi sous l'effet de la Covid-19 ou au contraire, ça l'a abruti encore plus la populace ?
On ne cherche pas spécialement à faire de constats, on cherche à donner des perspectives. On cherche justement à montrer que même dans la pandémie, le fait qu'il n'y ait pas de masque, c'était suite à des décisions gouvernementales et surtout le fait, Isabelle en reparlera, mais que l'hôpital soit dans cette situation, c'est le résultat de dizaines d'années de politique gouvernementale de coupe des budgets des hôpitaux, entre autres pour subventionner les grandes entreprises à coup d'exonération sociale, d'exonération fiscale, des entreprises qui n'en ont pas besoin pour vivre. Et donc, c'est surtout ces perspectives qu'on veut tracer.
Oui, oui.
Pardon.
Attends, redis la perspective, reprends dès le début de la phrase parce que je n'avais pas ouvert le micro, vas-y. La perspective, disais-tu.
La pandémie, en tout cas, elle a montré que notre perspective communiste était confirmée. C'est quand même justement les travailleurs de l'hôpital, les travailleurs de la voirie, les caissières de supermarché, les femmes de ménage qui ont porté sur leurs épaules tout le fonctionnement de la société. Et ça s'est vu. C'est vrai que justement ce travail au quotidien de gens qui se lèvent à 5h du matin, il est bien souvent complètement nié, absent des grands médias, hein, puisque nous, bien souvent, quand on se retrouve pas chez toi, mais face à d'autres journalistes, on entend dire il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de classe ouvrière, finalement tous ceux dont on parle, ils sont de moins en moins nombreux. Bien non, c'est bien eux qui font fonctionner encore toute la société. Et ça, ça s'est vu quand même, y compris dans le personnel soignant, le fait que les ASH, aux côtés des infirmières, aux côtés du personnel de ménage, ils ont permis à l'hôpital de se réorganiser pour faire face aux différentes vagues, compte tenu justement de la façon dont la situation elle avait été aggravée de façon catastrophique par la diminution de personnel, par la diminution de lits, le personnel, lui, il a fait face. Et ça aussi, ça s'est vu. L'irresponsabilité, elle est quand même clairement du côté de nos dirigeants et de nos responsables politiques. Et ça aussi, ça s'est vu. Ça a peut-être montré les choses sous un jour... qui est celui sous lequel nous, les militants, les ouvriers, on le voit depuis longtemps, mais qui est relativement toujours mis sur le côté par les commentateurs divers.
Oui, donc ces mouvements existent. Comment se fait-il que vous n'ayez pas les moyens de faire basculer les syndicats et les travailleurs vers la grève générale, qui est un outil que vous chérissez ?
Ça, c'est une question de maturité. On se retrouve face à des travailleurs qui sont déboussolés, qui sont démoralisés. Et donc, nous, on est là pour dresser des perspectives, mais ça ne se fera pas de façon automatique ou de façon facile. C'est aussi à travers les luttes que les travailleurs mèneront, qui prendront conscience de leur force et que petit à petit, on va recoller les morceaux. À partir de la crise de 1929, les luttes ouvrières, elles ont recommencé vraiment qu'en 1934, 1935, pour culminer en 1936. Et ça a été un phénomène mondial, puisque même aux États-Unis, il y a eu des luttes. Donc, nous, on n'espère pas que ce sera après-demain, mais on est persuadé, et il semble que, sans reprendre ce qu'a dit Isabelle, ce soit ces perspectives-là qui soient devant nous. Parce que sinon, la barbarie va s'installer dans la société, la régression va s'installer dans la société, la violence... Parce qu'on a parlé du meurtre du policier d'Avignon le 5 mai par un trafiquant de drogue, mais ça a été plus discret pour le meurtre d'une travailleuse sociale, Audrey Adam, dans la, je pense que c'est dans l'Aube, qui a été tuée par une personne et qui montre à quel point la société part en morceaux. Les travailleurs sociaux sont confrontés en permanence à de la violence. Ils sont en première ligne. Les policiers aussi sont en première ligne pour intervenir. Mais les travailleurs sociaux n'ont plus de moyens et eux, ils prennent en pleine figure aussi la dégradation générale, la paupérisation de la population, le désespoir aussi de la population. Et c'est ça aussi qui fait le lit de la violence.
Et donc, socialisme ou barbarie, il faut choisir, disait des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Donc sur les compétences de la région, je sais pas si vous avez vraiment beaucoup de choses à dire, quoi qu'il y en ait beaucoup à dire. C'est pas le sens de ce qu'on a entendu jusqu'à présent, là, puisque vous expliquez qu'il s'agit surtout de candidatures de témoignages. Enfin, c'est quand même mieux une région à gauche qu'une région à droite, non? Qu'une région chez les fachos.
Les régions sont le lieu où beaucoup d'entreprises bénéficient de cadeaux, d'exonérations, de subventions, et les régions sont souvent des machines à voter. Et quand Lutte ouvrière a pu faire élire des conseillers régionaux dans certaines régions, on s'est aperçu que, par exemple, une entreprise touchait de l'argent pour un plan social dans une région et touchait de l'argent d'une autre région pour se relocaliser ailleurs. Et donc, c'était toujours gagnant-gagnant. Et le plus gros employeur privé de la région, Airbus à Marignane, touche de l'argent de la région au titre, entre autres, de l'apprentissage. Donc, nous ne faisons pas que nous présenter pour pousser notre cri dans la campagne. C'est que, y compris si nous étions élus, et nous souhaitons être élus, ce serait aussi pour être les yeux et les oreilles des travailleurs au conseil régional, pour rapporter ce qui s'y passe, ce qui se dit au nom des électeurs et ce qui se fait. Et je pense que ce serait aussi un instrument pour prendre conscience.
D'accord. Bon.
Et puis quand tu dis est-ce qu'il vaut mieux une région à gauche ou une région à l'extrême droite ou à droite, honnêtement, le pouvoir, justement, il n'est pas dans les exécutifs que sont les conseils régionaux ou même qui est le gouvernement. Le véritable pouvoir, il est dans les conseils d'administration des grands actionnaires. Et en réalité, tous les représentants de ces différents partis, ils sont à plat ventre devant les intérêts de ce qu'ils appellent le monde économique. Derrière le monde économique, en général, ils parlent en effet des patrons, pas de ceux qui travaillent. Donc il s'agit toujours de verser des aides aux grandes entreprises, mais absolument pas ni d'embaucher, ni de relever les salaires, y compris des personnels qui relèvent de la région. Moi, je pense par exemple au personnel des lycées qui relèvent bien sûr de la région. Je travaille dans un lycée professionnel. Face à la pandémie, il n'y a pas eu d'embauche, il n'y a pas eu de revalorisation. Eux aussi, ils étaient en première ligne pour créer les conditions sanitaires pour qu'on puisse reprendre l'école dans des conditions correctes. Et honnêtement, ils ont mis les bouchées doubles. Ils n'ont rien vu venir en termes d'amélioration de leurs conditions de travail, en termes de revalorisation salariale et en termes d'embauche, même des précaires, même des CDD et tout ça. Il n'y a rien eu de fait.
Il n'y a eu que des contraintes supplémentaires.
Tout à fait.
D'accord, c'est un constat. Et sur leur construction de ces lycées, est-ce qu'on en manque sur le territoire du Sud, comme dirait Muselier, de la Provence, comme dirait Hervé? Est-ce qu'on en manque?
Oui, il en manque, mais là aussi, la construction des lycées, à vrai dire, comme la construction des logements au niveau de l'État, pour nous, ça devrait être pris en charge directement par la collectivité publique. Et que l'argent public, que ce soit celui de la région ou que ce soit celui de l'État, il serve à construire les bâtiments qui manquent, à construire les logements pour des revenus modestes qui manquent. Parce qu'en réalité, quand ils construisent, que ce soit des lycées ou que ce soit des logements, c'est pour enrichir les Vinci, les Bouygues et compagnie. Ça fait quand même leur beurre. Ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de la société, que ce soit les établissements scolaires ou que ce soit les logements pour des ouvriers, sont en nombre bien insuffisant par rapport aux besoins.
D'accord. Donc toi, tu penses qu'il y a en plus, en outre, une magouille sur les marchés publics, que c'est toujours les mêmes qui les remportent?
En tout cas, ça enrichit les capitalistes du béton.
Oui, c'est pas ce que veut dire François, vas-y.
Non, je répète pas ce que dit Isabelle, mais ce n'est pas une magouille, c'est le fonctionnement normal d'un système qui est basé sur la propriété privée et ils font ce qu'ils veulent. Comme elle disait, c'est les conseils d'administration des grandes sociétés qui dictent leurs lois. Mmh. Et quand Airbus a pour client l'armée française ou les administrations françaises pour vendre des hélicoptères, c'est eux qui font les prix. Mmh. Et l'État dit d'accord. Là, dernièrement, 300 millions d'euros pour 8 hélicoptères Caracal. C'est Airbus qui a fait les prix. Mmh. Et c'est l'État qui signe. Donc tout ça, ça sert en fait à ce que l'argent public, sans compter l'utilité sociale d'hélicoptères transport de troupes, mais ça sert à ce que l'argent public alimente les caisses des groupes privés, que ce soit pour la construction de nouveaux bâtiments ou autre chose.
Dans la formation professionnelle, on sait le massacre qu'a fait la précédente majorité, hein, en mettant les organismes de formation... leur mettant le couteau sous la gorge en supprimant tout plein de dispositifs à laquelle la région participait, comme l'apprentissage des langues et des savoirs de base. Je pense au dispositif ETAPS, par exemple, qui ont été supprimés et qui permettaient donc à des jeunes qui n'étaient pas encore en situation d'intégrer soit des lycées, soit des universités, d'avoir un petit revenu. Hein, tout en apprenant à parler le français ou à rattraper leurs connaissances. Tout ça, ça a été cassé d'un revers de main par le président de région. Il faudrait un exécutif qui rétablisse au moins ces espèces de secours, de garde-fous qui empêchent les jeunes de sombrer dans la pauvreté ou dans la délinquance. Est-ce que vous avez fait eu une réflexion, je veux dire, par rapport à cette formation professionnelle, sachant que de plus en plus, au fur et à mesure qu'on voit passer les années, les patrons dont vous parliez ont exigé que l'esclave soit carrément non seulement soumis à son maître, mais déjà en situation de remplir sa tâche avec les formations adéquates. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné des connaissances générales à un certain nombre de publics, on a donné des connaissances professionnelles pour qu'ils soient adaptés à la demande patronale. Je pense que ça fait partie de la réflexion que vous avez pu avoir à l'occasion de ces régionales, puisque ça, c'est aussi de la compétence des régions.
Simplement, sur la formation professionnelle, ce qui est sûr, c'est que c'est des officines privées qui sont grassement payées pour des résultats pas du tout probants, qui se sont quand même enrichis et qui ont touché la manne. Parce que je discutais encore hier sur un marché avec une chômeuse de 56 ans. Elle en est à sa 8e formation par je ne sais combien d'officines différentes, à chaque fois pointée quand même assez grassement par Pôle emploi. Et au résultat, elle n'avait toujours pas de boulot.
Je parlais aussi de ce qui est alimenté par la région. Donc les organismes auxquels je pense, c'est le GRETA, c'est le CIRES, c'est Sigma Formation, issu des mutuelles CGT. C'est pas des gratte-sous et
c'est pas ceux-là qui ont certainement touché le plus d'argent.
Je voudrais qu'on mette les choses au point.
Je mettais justement la lumière sur ceux qui ont touché de l'argent. Et qui ont aucune efficacité, parce que tu as raison, le GRETA, comme la formation professionnelle au cours d'une vie de salarié, ça devrait être justement possible, accessible, de pouvoir éventuellement changer d'orientation, changer de voie, se former à un nouveau métier. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la catastrophe du chômage, c'est plus de 6 millions de chômeurs et des centaines de milliers ou des millions d'autres qui vivent de petits boulots en petits boulots, de contrats saisonniers, de contrats précaires, Et là, par contre, on le sait bien, ce n'est pas qu'une question de formation. François pourrait en parler mieux que moi, mais quand il y a eu un plan Airbus qui a aussi supprimé des emplois d'ingénieurs, ils étaient tout ce qu'il y a de formés pour travailler dans l'aéronautique. Ça ne les a pas empêchés de perdre leur emploi. Donc le problème de la formation, c'est effectivement un aspect de la médaille. L'autre aspect, c'est qu'il y a un chômage de masse et que le chômage de masse, c'est pas simplement un problème de formation, c'est un problème d'imposer la répartition du travail entre tous. C'est de fait qu'il n'y ait plus de licenciements, c'est de faire en sorte que tous ceux qui aujourd'hui sont intérimaires, saisonniers, contractuels, soient réellement embauchés. C'est le fait de créer des millions d'emplois dans tous les secteurs qui en manquent cruellement, que ce soit la santé, on en a parlé, que ce soit l'éducation ou que ce soit la formation, mais en tout cas, ou la construction de logements. Mais voilà, le vrai problème en réalité, c'est quand même ce chômage de masse auquel il faut vraiment s'en prendre avec de tout autre moyen que ceux qui ont été utilisés depuis des décennies, c'est-à-dire arroser les patrons, arroser les entreprises privées au nom de la formation ou au nom de la création d'emplois avec le résultat qu'on connaît et le chômage qui n'a pas cessé d'augmenter.
Oui, tu disais, pardon.
Au niveau du président de région précédent, de Christian Estrosi.
Non, je parlais de Muselier.
Ah, de Muselier, oui, d'accord. Non, parce que, y compris, poser la question en tant que gestion de l'exécutif, parce qu'on est à la veille d'élections. Donc, la droite sert de repoussoir à la gauche, qui aspire à gérer les affaires. Mais depuis 40 ans qu'on a vu l'alternance politique, on a quand même pu voir que la gauche au pouvoir fait la politique de la bourgeoisie, conforme aux intérêts du patronat. Airbus à Marignane, c'est issu de l'aérospatiale qui a été privatisé par Jospin, qui a plus privatisé que Juppé et Balladur auparavant. Donc quand les intérêts supérieurs des capitalistes demandent de nationaliser, ils ont été nationalisés et grassement indemnisés par Mitterrand et Mauroy. Et ensuite, quand il fallait privatiser, ils ont privatisé. C'est les mêmes. Et que donc, dans les deux cas, la gauche a fait la politique qui était nécessaire aux intérêts du capital. Alors là, maintenant, de nous ressortir le chantage en disant « mais quand même, c'est mieux, il faudrait qu'à l'exécutif, il y ait des gens qui soient... » Ce chantage, il n'a que trop duré quand même, parce que ça nous enfonce dans la crise, ça n'apporte aucune réponse à nos problèmes, et en plus de ça, ça fait le jeu du Rassemblement National, parce que les gens se disent bah, « finalement, on n'a jamais essayé le Rassemblement National, il faut voter pour eux. » Et que donc même cette politique de dire « avec un exécutif de gauche, ce serait mieux qu'avec un exécutif de droite », c'est une manière de nous enfermer dans un problème, alors que nous, ce qu'on va dire, c'est que ce seront des luttes qui permettront d'en sortir, des luttes massives de la classe ouvrière qui permettront d'inverser la tendance.
Faire reconnaître quand même que si c'est l'extrême droite, on finit, toi, moi, Isabelle, dans les camps, là.
Mais qui a créé cette situation ?
C'est juste ça, je veux dire.
Qui a créé cette situation ?
Ah oui, bien sûr. Mais bon, on n'arrive pas à s'en sortir, puisqu'il n'y a pas le fameux grand soir, soulèvement populaire, ce à quoi on aspire depuis qu'on est petit.
Il ne s'agit pas d'un grand soir, il s'agit que ce soit la Ligue communiste ou le Parti socialiste a fait voter Chirac en 2002. Ça, c'est ça qui entretient la confusion et c'est ça qui a renforcé Le Pen. Parce qu'ils se disent, bah, de toute façon, c'est bien, au plus on vote pour nos idées, au plus ça monte. Et aujourd'hui, quand Macron va sur les terres du Rassemblement national en étant de plus en plus sécuritaire, avec Darmanin, avec tout ce qui se passe entre la confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme, ça fait le jeu du Rassemblement national. Donc il faut arrêter ce chantage, il faut notre drapeau, le drapeau rouge, le drapeau des travailleurs, de l'internationalisme qu'il faut planter et pas céder à un chantage électoral.
En plus, vraiment, je ne pense pas qu'on finira en camp si Mariani, qui avait une veste LR il y a quand même pas si longtemps et qui, à mon avis, ne valait pas mieux quand il avait la veste LR que ce qu'il fait aujourd'hui, même si je suis d'accord, il agite une politique peut-être plus xénophobe pour être en conformité avec les idées d'une Marine Le Pen. On a vu l'extrême droite à l'œuvre ces dernières années en Autriche. On les a vus aussi à l'œuvre au niveau du gouvernement avec Salvini en Italie. Fondamentalement, ils ont fait comme les autres. C'est-à-dire, ils s'en sont pris aux droits des travailleurs. Je dis pas que c'est pas grave, hein. Évidemment que c'est grave, comme est grave toute l'évolution depuis des années. Mais en Autriche, ils ont permis d'augmenter le temps de travail. En Italie, ils ont agité un chiffon rouge contre les bateaux, effectivement, qui sauvaient des migrants en Méditerranée. C'était particulièrement infâme. Mais honnêtement, ces migrants, la politique politique d'un Macron, qui lui est peut-être pas avec l'étiquette RN, elle vaut mieux. Il les laisse quand même aux associations qui n'ont pas de moyens. Il est incapable de leur ouvrir des ports, y compris ceux qui sont en Méditerranée, quand il faut accueillir un bateau. Je me souviens de ce bateau qui avait erré jusqu'à atterrir en Espagne pour pouvoir réhydrater et soigner et mettre à l'abri des femmes, des enfants. Franchement, ils font pas mieux les uns et les autres. Il n'y a pas de raison de se faire peur avec le drapeau du RN. Le RN, il est comme les autres, en pire certes, mais fondamentalement comme les autres. Vraiment, ils font pas mieux. Donc il faut que nous, on se mette dans la tête que notre avenir, il dépend d'aucun de ces gens-là. Quelle que soit leur étiquette, de gauche, de droite, d'extrême droite, notre avenir, il est entre nos mains. C'est à nous de prendre justement en main notre sort. Il n'y a pas de sauveur suprême. C'est à nous de dire, il faut que ça cesse. On fait fonctionner toute la société. On doit pouvoir vivre dignement. Il faut augmenter les salaires. Il faut répartir le travail entre tous. L'argent existe. Il faut commencer par contrôler justement cette poignée de milliardaires et cette poignée d'actionnaires qui décident de tout et qui nous mènent dans le mur. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là.
On est toujours dans ces dimanches qui précèdent les élections des 20 et 27 juin, bientôt. Donc dans moins de 3 semaines, à l'heure où je vous parle, où le vainqueur, le grand vainqueur, ça risque quand même d'être l'abstention. Malgré la bonne parole de nos amis travailleurs de lutte ouvrière, François Roche et Isabelle Bonnet, qui font eux aussi ce qu'ils peuvent pour essayer de changer cette société décidément de merde, dans laquelle on continue à perdre notre vie, à essayer de la gagner, tandis que d'autres se remplissent les poches. On a vu pendant la crise les riches devenir toujours plus riches, la crise sociale s'accentuer, les files devant les organisations humanitaires qui distribuent la nourriture ou encore des produits d'hygiène, des couches pour les bébés et aussi, pourquoi pas, des tampons pour les dames qui n'ont plus les moyens de mener une vie digne dans ce pays. Donc c'est la création, on va dire, là, du fameux Lupin prolétariat dont Marx et Engels avaient horreur. Oui, non ?
Ben justement, exactement sur ce sujet, c'était pour rappeler que dimanche 6 juin, Nathalie Arthaud sera à Marseille pour un meeting, donc dimanche 6 juin, à 15h au Jardin de Magalon, c'est à côté du métro de Bougainville, au boulevard de Magalon, pour discuter de tous ces sujets. Donc bien sûr, Isabelle y sera. Et donc c'est quand même un événement de la campagne que Nathalie Arthaud puisse venir à Marseille pour défendre notre programme.
C'est le chef dimanche, de lutte ouvrière, c'est celle qui a remplacé Arlette Laguiller à la tête de ce beau parti. C'est démocratique, lutte ouvrière, pour la désignation des responsables, parce qu'on a l'impression que les gens, une fois en place, ils ne bougent plus.
Je crois que c'est la seule organisation politique où le Congrès est une assemblée générale où tout le monde peut s'exprimer et que toute l'année, tout le monde peut s'exprimer ouvertement et librement et discuter.
Il n'y en a pas d'autres.
Comme on les présente, mais en tout cas, notre fonctionnement, il est ça.
Bon, tu as vu que je ne t'ai pas attaqué sur Trotsky aujourd'hui, ce n'est pas l'envie qui m'en manque.
Nous regrettons beaucoup de ne plus avoir Trotsky parce qu'on ferait sans doute moins de bêtises, mais voilà, en fait, il n'est pas là.
Ouais. Alors, je ne ferai pas non plus piolétaire de tous les pays, unissez-vous. Je ne le ferai pas, je le jure.
Ben non, on le revendique. Hein.
Oui, je sais, c'est pour que je ne ferai pas la plaisanterie là-dessus. Alors, quel est l'essentiel des autres missions de la région sur lesquelles vous n'êtes pas venu et que vous auriez aimé mettre en évidence dans le programme? Le programme de lutte ouvrière, c'est... on a l'impression quand même d'un bloc uni sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de spécificité particulière à la région PACA.
Bah, tu sais, ce qui a été décrit là, dans ta présentation, là, sur les fils qui s'allongent pour des colis alimentaires, des femmes qui n'arrivent même pas effectivement à payer les couches pour leurs gamins, ça se retrouve sur tout le territoire. Et c'est bien pour ça que nous, on n'a pas spécialement un catalogue de mesures pour la région. On ne dit pas que l'herbe sera plus verte dans les Alpes, que la mer sera plus bleue sur la Côte d'Azur. Non, ce qu'on dit vraiment, c'est que face à cette catastrophe économique et à cette catastrophe sociale liée à la crise du capitalisme à laquelle s'est rajoutée la pandémie, il faut vraiment prendre sur le pognon qui s'accumule. Et ça, pour prendre sur ce pognon, il faut qu'on se mobilise, il faut des grèves puissantes, il faut des grèves déterminées, il faut qu'on discute, qu'on réfléchisse. François, il disait qu'on a un fonctionnement démocratique. Oui, nous, entre militants, entre sympathisants, on discute chaque semaine de notre campagne, chaque semaine des échos que notre campagne, elle peut avoir auprès des travailleurs avec lesquels nous échangeons dans les entreprises ou sur les marchés ou dans les quartiers populaires. Et c'est ça qui nous porte. C'est que justement, ce qu'on défend, le drapeau qu'on lève dans cette campagne, le camp des travailleurs, eh ben, il trouve un certain écho. Alors, bien sûr, il n'en trouve pas un sur le terrain électoral, parce que voilà, on nous répète quand même depuis qu'on est tout petit que pour que les choses changent, il faut bien voter. Et ça s'apaise justement que c'est par les élections que viendra le changement. Mais nous, on tient à réaffirmer que c'est par la lutte de classe, c'est par la révolution que les choses changeront. Et on le dit et on se rend compte que ça trouve un certain écho.
Et puis quand même, je voulais juste dire que nous sommes des militants régionaux. Au sens où on est en plein dans le monde du travail. Isabelle est enseignante en milieu professionnel. Elle a participé à toutes les luttes des enseignants professionnels de la région. On n'est pas des extraterrestres hors sol. On est dans la région. Moi, je suis dans mon entreprise. Mon camarade Rémi Basali, qui est ouvrier dans l'aéronautique, qui sera tête de liste dans le Vaucluse, il est connu dans son atelier et apprécié dans son entreprise, et même au-delà, comme un militant, qui est de toutes les grèves et de toutes les luttes et de toutes les manifestations. La seule différence, c'est qu'on ne raconte pas des salades aux gens en disant « si tu votes pour moi, ça sera mieux dans les Bouches-du-Rhône ». Ça, c'est, là, effectivement, on ne le dit pas. Mais c'est un mensonge. Nous, ce qu'on dit, c'est « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Et oui, il faut qu'on se défende. Mais ça ne nous empêche pas de nous battre au quotidien et de soutenir les travailleurs qui se battent au quotidien autour de nous, d'être partie prenante de leur lutte. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne dit pas qu'il y a une bonne gestion du capitalisme. On ne dit pas qu'il y aura une gestion humaine du capitalisme. Mais nous sommes enracinés dans la région parce qu'on est enracinés dans nos lycées professionnels, à l'hôpital et dans les entreprises de la région. La différence, c'est qu'on ne dit pas effectivement voter pour nous et ça sera mieux en Provence. Parce que ça, c'est des salades. Enfin, quand même, on peut en discuter, mais c'est de la démagogie. C'est la crise du capitalisme qui est en cause. La riposte doit être massive, elle doit être la plus large possible et pas régionale.
Oui, moi je disais depuis le temps qu'on l'attend. C'est curieux parce que c'est au contraire l'extrême droite, les solutions fascistes qui émergent. Ça m'inquiète. Moi aussi, je me suis battu en vain depuis que j'ai 15 ans.
Bien sûr.
Quand je vois ce résultat-là, c'est désespérant.
On est inquiets, nous aussi. Et juste pour revenir un petit peu sur ce que j'essaie de développer tout à l'heure, et François aussi, sur le chantage qu'on va entendre revenir là par rapport à l'extrême droite qui peut ou pas emporter la région. Si je disais que l'extrême droite aujourd'hui en France, c'est en quelque sorte un parti comme les autres en pire, c'est pas du tout pour dire qu'il n'y a pas de quoi être inquiet de l'évolution sécuritaire de la société et de la possibilité de la du surgissement d'un parti fasciste ou d'idées fascistes ou d'une évolution fasciste de la société. Parce que ça, justement, c'est inscrit, en quelque sorte, dans l'aggravation de la crise parce qu'ils vont la faire payer à qui, cette crise ? Ces plans de relance de centaines de milliards d'euros qui ont servi finalement à alimenter les trésoreries des groupes capitalistes qui se sont empressés, non pas de sauver les emplois, mais d'alimenter encore plus les flux de la spéculation financière, ils nous amènent direct au prochain crack. Hein, alors bon, la semaine dernière, on parlait du crack du Bitcoin, là, soi-disant le truc super miraculeux. Bon, c'était encore un petit peu marginal dans l'économie de la société, mais le jour où il y a un nouveau crack comme celui qu'on a connu en 2008, puissance 10, parce que là, les États, ils sont endettés, ils n'auront pas les moyens de sauver la mise des banques quand tout ça commencera à s'écrouler, où est-ce qu'on va ? Ils auront peut-être besoin, à ce moment-là, les capitalistes, effectivement, d'une main de fer pour nous faire fermer notre gueule, pour nous faire bosser des 8 heures, des 10 heures, des 12 heures et accepter des salaires réduits de 30% ou de 50%, nous faire accepter des retraites divisées par deux. Peut-être que demain,
Et
un régime plus policier encore, plus fascisant pour nous faire effectivement accepter tous ces reculs. Donc c'était pas pour minimiser les choses par rapport à l'extrême droite, hein, c'était pour dire au contraire qu'il fallait combattre ces idées-là, y compris leur influence parmi les nôtres, parmi les travailleurs, parmi les chômeurs, et qu'il fallait surtout, justement, pour nous c'est ça la seule solution, c'est pas se dire aïe aïe aïe, qu'est-ce que je vais faire au deuxième tour des élections régionales en PACA en 2021, parce que là les dés sont pipés depuis longtemps. C'est se dire, bah oui, qu'est-ce que je peux faire pour que la conscience, elle se développe, qu'il va falloir transformer cette société pour faire en sorte qu'on renforce ces idées-là parmi les couches populaires, parmi les travailleurs, parmi les chômeurs, qu'il n'y a pas d'autre issue que de renverser cette société.
Oui, je pense que c'est important de voter pour la liste Lutte ouvrière pour affirmer qu'il existe un courant politique communiste, qui se donne pour but de renverser le capitalisme, pour construire une société dirigée par les travailleurs, sans exploitation. Et c'est important de le dire, parce que voter pour Lutte ouvrière, c'est voter pour ses idées, et c'est le seul vote utile, en fait, de voter pour ce qu'on pense, si on en est convaincu, bien sûr. Et en plus de ça, ce sera voter pour une liste qui n'ira pas marchander son soutien en échange de strapontins, de postes ou de places, puisque c'est notre constante depuis qu'on se présente aux élections, et ça fait longtemps. Et donc de réaffirmer les idées communistes. Et je me permets de remettre une couche sur le meeting avec Nathalie Arthaud qui aura lieu le 6 juin, dimanche 6 juin, au Jardin de Magalon, boulevard de Magalon, à côté du métro Bougainville, où vous pourrez entendre ces idées-là développées peut-être même mieux que moi.
Ok, par Nathalie Arthaud. Donc Isabelle, il ne reste plus rien à dire là. Il a tout piqué. Hein.
Il a dit l'essentiel, bien sûr. Mais en effet... là, le bulletin de vote, c'est un moyen de lever le drapeau de ses convictions. De ses convictions qu'il faut renouer, justement, avec un espoir, l'espoir de transformer cette société en s'appuyant sur les mobilisations collectives, parce que nous, les travailleurs, on détient en fait une force dont parfois on n'a pas conscience, mais cette force, dans certaines périodes de l'histoire, elle a permis justement de surmonter bien des crises, des difficultés, et elle a permis surtout de faire avancer des droits pour l'ensemble des travailleurs et pour l'ensemble de la société. Tout ça est en train de reculer aujourd'hui, donc il est grand temps qu'on renoue avec ces luttes collectives. Le bulletin, ça ne remplace pas la lutte, mais au moins, ça permettra de dire qu'on est dans ce camp-là et que c'est cette conscience-là qu'on veut, y compris faire résonner dans une urne. Tout le reste, c'est du baratin.
Décidément, voilà, je me trompe à chaque fois de curseur, parce que ce n'est pas l'habitude de celui-là. Je vous remercie vraiment d'être venu. Hein, je salue Lutte ouvrière. Je souhaiterais pour vous que vous puissiez être reçu dans d'autres radios et en particulier nationales, hein, pour une heure complète de l'émission. Bon, le privilège quand même de Radio Galère, pas pour vous autres. Cette émission touche à sa fin. Ça s'appelait Tirons la chasse, mais bon, là on n'a pas trop agité la merde, hein, ce qui aurait nécessité la chose. Et c'est sur le 88.4 en modulation de fréquence, sur le canal 8C en DAB+, et vous nous retrouverez sur www.radiogalère.org en téléchargement, en podcast, quoi, hein, pour les anglicistes et les britanniques. Hein,
pardon. Merci à toi.
Oh, il n'y a pas de
merci.
Quoi.
Et on est toujours très contents de participer une heure ici.
Voilà. Eh bien, tant mieux. J'en dirai pas plus.